un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La littérature, le cinéma, la peinture et jusqu'aux fresques préhistoriques pullulent de récits épiques qui décrivent des parties de chasse héroïques, haletantes et violentes, conduites par des hommes héros qui manient bâtons, lances et épées et tout un tas d'instruments avec lesquels ils frappent, percent, cognent ou tuent. Or, il se trouve que pendant l'immense majorité de l'histoire de l'humanité, au paléolithique, au néolithique et à l'époque préhistorique, entre 65 et 80% de ce que mangeaient les êtres humains était cueilli. Des graines, des racines, des bourgeons, des jeunes pousses, des feuilles, des noix, des baies, des fruits et des céréales. Mais qui fera le récit de ces cueillettes interminables et essentielles ? Qui pour raconter les aventures du panier qui contient les baies ? Comment rendre aussi captivant l'arrachage des graines sauvages que le massacre des mammouths ? C'est ce que se demande Ursula Le Guin dans un fameux texte intitulé « La théorie de la fiction panier ». Y a-t-il d'autres possibles narratifs en dehors de l'ascension de l'homme héros et dominant ? Ou faut-il se résoudre aux fictions de chasse, de violence et de viande ? L'émission d'aujourd'hui est une réponse à cette féministe géniale et une fiction panier justement captivante, racontée par Élise Andrieux. Elle s'intitule « Les cueilleurs ».
Je m'appelle Claude, j'ai 41 ans et je suis cueilleur de plantes depuis maintenant 8 ans à peu près. Pout pout pout, pout pout pout. Alors ça a commencé à la fois tôt et tard, puisque j'ai mis un moment à créer mon activité, puisque moi mon père il est pas du tout branché nature et puis... Il a du mal à reconnaître la différence entre un chou rouge et une betterave. C'est pas des choses qui l'intéressent. Puis ma mère, elle n'est pas du tout aussi du monde agricole, mais elle est beaucoup plus sensible à l'environnement, à la nature. Elle m'a vraiment appris à respecter un peu le monde qui nous entoure. Et le premier souvenir que j'ai un peu de quelque chose de marquant, c'était on se promenait quand même pas mal avec les parents. Je devais avoir 8 ans, enfin... Et en promenant dans une forêt, en fait, je vois ma mère qui, tout en marchant, elle a cueilli une feuille par-ci, une feuille par-là, et elle m'a fait une espèce de sandwich rouleau de printemps, de feuilles enroulées dans une autre feuille, et m'a tendu ça en me disant, tiens, goûte. Et ça a été une espèce de surprise, de goût, de sensation, d'un moment un peu magique où tu t'y attends pas, où en fait tu passes à côté de quelque chose que tiens tu pourrais manger puis t'étais même pas au courant, et surtout avec un goût nouveau qui changeait de tomates, courgettes, carottes, et je me suis dit c'est génial, voilà. Moi, je me sentais bien dehors, je me sentais bien au milieu de la forêt, je me sentais bien à marcher, à sentir le vent sur mon visage, je me sentais bien... Je sais que j'ai eu souvent cette idée de faire garde forestier, mais c'était comme une voie, en fait, un peu imaginaire. En fait, on faisait bien comprendre qu'il y avait très peu de débouchés, que c'était pas un métier d'avenir, qu'en fait, il fallait même pas y penser, parce que c'est pas viable, en gros, quoi, et que maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un travail, être sûr d'avoir un CDI, tout ça, donc je me suis laissé porter par un peu des études, où j'étais pas trop mauvais à l'école, j'ai été orienté dans un cursus où j'ai fait bac S, après j'ai fait un DUT de génie des télécommunications et réseaux. C'était le métier de l'an 2000 où on allait pouvoir trouver du travail rapidement, réussir sa vie, évoluer. Et puis, j'ai fini ce DUT, j'ai commencé à travailler donc dans la téléphonie jusqu'à me faire licencier économique. Donc là je me suis dit, ah ben, tiens, on me dit que c'est un métier d'avenir, mais bon, comme tout, on n'est jamais sûr de rien en vrai, mais bon. Voilà, je me retrouvais au bout d'un an, avoir travaillé un an, et puis avoir pour la première fois de ma vie le chômage, et je me suis dit, tiens, en fait, t'as jamais rien fait de ta vie, t'as du temps, et ben pars un peu à l'aventure, et j'ai pris un billet pour la Réunion. Et je me souviens de ce moment comme la première fois dans ma vie, où en fait, j'ai vraiment fait ce qui me plaisait. J'ai pris un billet d'avion, et je suis parti. Ça a duré 6 mois, j'aimais beaucoup... sur l'île, partir avec mon sac, j'ai découvert des endroits merveilleux de La Réunion, c'est vraiment une île fantastique. Puis à La Réunion, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est comme ça que je me sens vivant, en vrai, je suis beaucoup plus heureux que derrière un bureau, sous des néons, sous l'air conditionné, assis sur le cul sur une chaise, à travailler toute la journée, ça me plaît pas, en fait, je veux être dehors. Et donc, je suis un peu penaud, quoi. Je reviens de La Réunion, je me retrouve sans sous, sans chômage. Bon, ben, je rattaque la téléphonie. Mais un de mes objectifs, c'était de me dire, bon, ok, je vais essayer de travailler en Ardèche et je serai en Ardèche. J'aime l'Ardèche et puis je finis par trouver un emploi en Ardèche. Alors, c'était toujours la téléphonie. Et waouh, c'était pas pareil parce que au lieu d'être au milieu des rocades, des zones industrielles, des poids lourds, c'était des petites routes, c'était des plus petites entreprises, c'était partout autour, il y avait des collines, c'était les balades étaient à proximité, les rivières étaient à proximité, les coins à champignons. Je m'empressais de quitter le travail pour aller zizouner, comme on dit, traîner un peu l'aventure en baladant à droite à gauche pour aller se baigner dans des eaux de torrents, de rivières fraîches. Et donc j'étais porté par les plantes, mais j'y connaissais rien. Vous voyez bien que voilà, il y a quelques plantes un peu faciles, hein, le pissenlit, le plantain. Je ramassais quelques débuts de salades, vraiment toutes simples, où j'étais déjà tout content de pouvoir me ramener 3 feuilles un peu à la maison. Mais c'était comme une espèce d'univers qui m'attirait, mais dont je comprenais rien. Viens là, Bouille, viens. Ça, c'est les jeunes feuilles de Lampsan qui sont comestibles. Et donc voilà, je continue mon boulot, je suis dans la téléphonie. Et en fait, donc la coïncidence a été que Noël, mon patron, rentre un midi en me disant, bah, tiens, mais en fait, à la fin du mois, je suis à la retraite, dit, j'avais pas vu venir le coup. Lui était un peu aussi étonné que moi, en fin de compte. Donc lui, il se retrouve à la retraite. Et dans le même temps, les patrons de tout le groupe, là, qui sont en Haute-Loire, eh ben, ils vendent l'entreprise. Et ils la vendent à un grand groupe. J'ai vite compris, en fait, qu'ils n'avaient pas du tout la même manière de travailler que Noël. Noël, j'étais heureux de travailler avec lui parce qu'il m'a montré qu'on pouvait travailler en étant droit dans ses bottes, en étant honnête, en étant sincère. Et puis, en fait, quand ils sont arrivés avec leur gros 4x4, voilà, j'ai vite compris que eux, c'était pas du tout le même rapport au travail, aux gens, à la société. Ils m'ont convoqué au 5e étage de leur grande tour à Courbevoie avec tous les grands patrons qui me regardaient. Donc eux, ils voulaient que je reste. Et en fait, ils m'ont sorti une phrase que je me souviendrai toute ma vie. Ils m'ont dit, écoutez bien, le profit ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le surprofit, la croissance à 2 chiffres. En fait, ils m'ont fait comprendre que quand un téléphone ne marche pas, même si je peux le réparer, eh ben, ok, ben je le répare pas. Je dis que je peux pas le réparer, et puis j'en mets un neuf, et puis je dis que le neuf, il est pas compatible avec les autres. Donc je pousse les gens à changer quelque chose qui marche pour qu'ils fassent du chiffre, et puis je vais jeter un truc qui marche. Alors moi, je vais pas aller jeter des trucs qui marchent, c'est complètement aberrant. Et puis je peux pas. L'Ardèche, c'est petit. Je veux dire, les gens, on les connaît, on les revoit sur les marchés. Je vais pas dire aux gars les yeux dans les yeux, écoute, ton truc il marche pas. Je j'ai pas envie de travailler comme ça. Je me souviens que j'ai dit cette phrase, j'ai dit, comprenez bien, jamais je vais mettre mon cerveau en marche pour des gens comme vous. Je préfère dormir dehors, je préfère galérer que travailler pour des gens comme vous, quoi. Donc finalement, je suis pas allé travailler pour Paris, j'ai travaillé pour Jean-Claude Grimard dans ce que j'avais imaginé, donc continuer à travailler en Ardèche, continuer dans la logique de sincérité par rapport au client. Et bref, voilà, ça dure un an, deux ans. Mais je sentais toujours au fond de moi ce truc d'incohérence où c'était pas moi, c'était pas ma vie, je voulais pas finir comme ça. Même si tout est agréable, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis un jour, bon, comme tout le monde, je prends deux semaines de congé et on part au Maroc avec Rémi, un bon copain avec qui on faisait à l'époque pas mal de montagnes, d'escalade, de randonnées. Bon, bref. Voilà, on avait prévu de monter au Maroc. Il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle l'Atlas et puis il y a un sommet, un 4000 qui s'appelle le Toubkal. Et puis, chemin faisant, on rencontre un peu des gens, on explique un peu notre parcours. Et puis, il y en a bien qui avaient dit, tiens, mais au Toubkal, il y a le marabout là-bas, il y a le marabout. Puis moi, c'est que sur le coup, je n'ai pas bien compris, marabout, bon, ouais, je sais pas. Et voilà, nous voilà partis, le taxi nous dépose un peu au pied du Toubkal, c'est assez tard. On va monter au sommet, donc voilà, tu marches sur un sentier un peu à la Belle Étoile, c'est une nuit noire. Et puis on arrive, je vois un peu plein de petites maisons, plein de petites cases, mais éteintes. Et puis là, il y a un petit point rouge. Putain, mais c'est... Puis finalement, je comprends que c'est un gars qui est en train de fumer une clope. Et donc, je m'approche, j'essaye de demander un truc, mais je vois que le gars, il est un peu vague, ou il comprend pas, ou bon, ben, puis je repars. Et puis, je continue mon chemin, quoi. Et en fait, le gars, il rappelle. Et donc, il nous invite gentiment dans sa petite pièce. Il y avait Rémi et moi qui touchaient le mur, il y avait une petite table en bois, une bougie sur la table. Ce gars qui nous a restauré, qui nous a fait boire de tisane chaude, du thé chaud, qui nous a fait des omelettes, et donc c'est sa petite gazinière où il faisait tout ça, et donc il faisait chauffer, il se retournait, il posait sur la table, il refaisait chauffer, et voilà, il avait des gestes super lents, il y avait cette petite lueur de bougie. Et on comprenait pas trop ce qu'il disait, ce gars, mais il y avait un Marocain, mais qui avait même pas la place de rentrer, quoi, qui était un peu accoudé à la porte et qui traduisait un peu ce que lui essayait de dire. Et en fait, il s'est pas vraiment adressé à Rémi. Il me parlait à moi. Il me regardait dans les yeux. Et sans m'avoir posé de questions, en fait, il m'a dit, presque pendant 3 heures, en boucle, arrête tout, pour toi, c'est les plantes. Arrête tout, pour toi, c'est les plantes. Toi, c'est les plantes. Hamdoulillah, pour toi, c'est les plantes. Et c'est comme si, en fait, il avait percé mon questionnement, comme s'il sentait ce qui se passait dans ma tête. Et moi, j'avais des frissons sur tout le corps, et puis, en même temps, chantait une espèce d'énergie qui me remplissait, ça montait, je dis là, on repart, et on monte au sommet, quoi. Donc on sort, et il y a eu ce moment où, en fait, on a vu deux étoiles filantes, coup sur coup, on est... Alhamdoulilah, parce qu'on a pris ça pendant 3 heures, ou Alhamdoulilah, une étoile filante, Alhamdoulilah, une autre étoile filante, c'est comme si, en fait, le ciel venait encore appuyer ce truc-là, c'est comme si c'était validé, en fait, par un truc encore au-dessus, quoi. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris par la suite que c'était lui, le marabout, c'était une personne que les gens venaient voir, qui traversait le Maroc pour venir s'adresser à lui, qu'il était à la fois un peu médecin, un peu chaman, sage, conseiller, qui habitait dans les montagnes, juste avant le sommet. Et moi, en fait, ça m'a conforté dans cette sensation de « Ok, ben lâche, en fait, lâche et fais ce que t'as envie, en fait, fais confiance, tu verras bien, quoi, vas-y !» Donc j'ai écumé un peu toutes les sorties de balades qui se proposaient en Ardèche, de gens qui faisaient des balades botaniques, j'ai fait plein de petits stages, j'allais dehors, j'essayais de reconnaître les plantes avec mes petits bouquins, je confondais une lavande avec un romarin, j'étais pas vraiment sûr, je comprenais rien en fin de compte. Et j'étais trop content! J'étais content parce que voilà, je ne savais pas du tout où c'est que j'allais, mais je me sentais bien, je me sentais heureux, je me souviens de ce... toutes ces douleurs physiques dans le dos, de toutes ces tensions qui se sont évaporées comme par magie quand j'ai arrêté de bosser. Putain, je me sentais beaucoup plus libéré. Je me levais pas au dernier moment, 4 fois après que le réveil sonne. J'étais debout sans réveil, beaucoup plus tôt. J'avais des idées plein la tête. C'était vraiment une période intense d'envie, d'expérience, de première cueillette avec un petit séchoir tout simple où je faisais sécher mes quelques plantes. Et puis il y a eu ce passage d'ail des ours. J'avais entendu un peu parler de cette fameuse plante, l'ail des ours, mais je ne connaissais pas. Et puis j'avais envie de la goûter, j'avais envie de la sentir, j'avais envie de voir à quoi elle ressemblait. Et donc je prends ma voiture et puis je pars chercher un peu cette plante, quoi. Et ça n'a pas été évident, je trouvais pas, je traînais, j'avais froid, j'étais sur le point de rentrer. Hein. Ça devait faire la deuxième nuit que je dormais dehors. Et sur le au détour d'un virage, un peu en descendant, là je tourne la tête sur la gauche. Il y avait tout un pan de où j'ai compris assez vite, je me dis, tiens, mais c'est ça en fait, c'était ça, c'était un vert de printemps, vert fluo, tout tendre, de la végétation qui repart avec cette odeur. Et j'étais heureux de voir aussi un endroit où en fait, là c'était pas un stade de foot, mais je veux dire, j'ai ramassé mes 3 cagettes que j'avais dans le coffre, et puis ça se voyait même pas en fait, dans cette mer verte. Et puis voilà, donc je me souviens de ce sentiment de bonheur en fait, de se retrouver un peu comme les chercheurs d'or, j'en sais rien, quand tu cherches un truc et que tu le trouves et que t'es tout content. Puis je prends mes 2-3 cagettes et puis je rentre. Et en fait, de fil en aiguille, je suis retourné, j'en ai ramassé un peu plus, j'ai fait des pestos, et ben ok, mais maintenant pour les vendre, si je veux être ken dans la légalité, il me faut un numéro de sirette. Et ben ok, je suis allé à la MSA, j'ai pris un statut, j'ai payé ma cotise et j'ai eu mon numéro de sirette. Et du coup, j'ai créé ma petite structure. Et puis en fait, ça a marché. Ça a commencé avec 10 pots, 30 pots, 100 pots. Je pense qu'à un moment, j'étais pas loin des 1000 pots. Je veux dire, ça donnait ma petite activité. Dans le même temps, je rencontre un gars qui habite en Creuse, un herboriste, Thierry Thévenin, et qui propose des stages, un stage de pratique. Et voilà, et donc je pars en Creuse. Je suis parti pour 3-4 jours, je resterai au final 4 ans. Thierry, il a un grand cœur, il a une grande maison. Et là, ça a été super, parce que j'ai vraiment appris le métier de cueilleur de plantes médicinal. J'ai maintenant peut-être 120 plantes que je cueille, donc vendues en vrac. Donc ça, c'est la cardamine. C'est souvent d'un beau vert bien tendre. Bien. Et donc je rentrais quand même quelquefois en Ardèche, j'avais aussi des cueillettes à faire des plantes du sud qu'on trouve pas en Creuse. Et puis dans cette période d'aller-retour, j'ai rencontré une femme. Et ce qui était vachement drôle, c'est qu'elle habitait en fin de compte dans le même village que moi, mais on s'était jamais vu avant. Elle est presque aussi sauvage que moi, elle passait son temps dehors et moi aussi, mais en fin de compte, pas aux mêmes heures, pas dans les mêmes coins. Elle s'appelle Lucille, et du coup, ça a été presque ma première stagiaire, on va dire, la Lucille. On a fait des cueillettes ensemble, on s'est bien entendu, on a passé du temps à cueillir, voilà. On s'est vu de plus en plus, et puis avec Lucille, on a trouvé une petite maison, donc au hameau de Fougerolles, à Saint-Michel.
Donc vous êtes tombé amoureux, en fait ?
Eh ben ouais, un peu, ouais. Ben oui. Et là, on a de la visite. J'ai vu sa voiture arriver, là, elle a dû rentrer.
Qui ?
Lucille. On va aller la voir. À l'intérieur.
Oh, t'es là ? T'es là ? Ça va ?
Oui. Lave-les bien, ces patates. On met un peu du sel et du laurier quand même dedans.
Du fenouil sauvage. Il est très aromatique. Que la Lucille a un coin secret où elle va récolter. Lucille, c'est un peu comme Manon des Sources, en fait. Elle passe son temps dehors à se baigner dans l'eau et à ramener des plantes.
Ça va. On y va. On va ramasser une petite salade et des pointes d'ortie pour l'omelette de midi.
Allez, ce beau soleil de midi.
On passe par là-haut pour lui montrer sa main.
On va voir ce qu'on trouve. Là, c'est un peu tôt, mais on va essayer de se faire une petite salade.
Quand je cueille ma petite salade, là, je sens la fraîcheur, la fragilité. On voit que c'est encore un peu poilu, ça a froid, c'est malmené. C'est pas en pleine vigueur, donc je prends les toutes jeunes feuilles qui seront les plus tendres. Parce que sinon, ce sera pas bon. Je lui laisse des jolies feuilles bien vertes. Les conditions sont difficiles, alors il faut pas l'empêcher de pousser. Je vais aller chercher la ciboulette.
Aïe, boubou. Ce qui me plaît chez elle, c'est que c'est quelqu'un qui est toute simple et qui s'émerveille de choses qui, pour la plupart des gens, peuvent paraître banales. Moi, je trouve qu'elle a un regard un peu enfantin et enjoué de choses toutes simples. Et c'est, pour moi, un peu une espèce de secret du bonheur aussi. C'est savoir s'émerveiller de ce qu'il y a autour. Et Lucille, elle est très douée pour ça. Pour moi... Lucille, c'est un être lumineux qui dégage vraiment quelque chose de rayonnant. Elle est belle, elle a un visage rayonnant, une peau, un regard, elle a les yeux clairs, elle a une espèce de posture en fait où j'ai l'impression quelque part il peut rien lui arriver.
Là, on suit le captage d'une source qui alimente le hameau de Fougerolles. Elle part là. Et là, on peut se manger quelques bourgeons de ronces qui protègent les voies respiratoires. Du coup, c'est juste le bon moment pour le manger, quoi. Et moi, j'adore ce goût. Tu vois ? Ça n'a pas un goût de feuilles, de chlorophylle. Ça a vraiment un goût d'amande amère. Et là, cette saison... Quand je me balade, je me fais mes petites cures. Je mange les bourgeons de tilleul, les bourgeons d'églantier. Ça, c'est... Ils ont le goût de rose. Les doigts, ils sentent la rose, la fleur. Dans la cueillette, ce que j'aime bien, c'est sentir que je fais partie du monde et qu'il n'a pas besoin de moi. J'adore cette sensation. Voir qu'il y a de la vie partout, en fait. Que tout continue, qu'il y a plein de petites sociétés, de petits écosystèmes qui fonctionnent à merveille, qui sont bien organisés, qui communiquent entre eux. J'aime bien voir ça quand je suis en cueillette. J'entends les sons, je vois bouger quelque part, Et des fois, c'est tellement fascinant que j'arrête de cueillir et que je bloque sur des fourmis, sur une chenille, sur une araignée. Et je regarde ce qu'elle fait. Je vois un peu sa vie, quoi. Une fois, c'était une petite abeille toute noire. Et en fait, elle me suivait. C'était très insistant. je comprenais pas ce qu'elle voulait en fait. Donc au départ, je la chassais parce que j'avais pas trop envie qu'elle me pique. Puis elle revenait, donc au bout d'un moment, j'ai cherché à savoir ce qu'elle faisait, quoi. Qu'est-ce qui l'attirait, si c'était l'odeur de ce qu'il y avait dans mon panier. Et en fait, non, c'est qu'elle voulait boire. C'était un endroit très sec. Ça faisait plusieurs heures que j'étais là en plein soleil. Et les bretelles de mon sac à dos, où il y a un peu de mousse, c'était imbibé de transpiration. Et en fait, elle venait téter la transpiration dans la mousse parce qu'elle buvait, en fait. C'est pour ça qu'elle me suivait partout. C'est parce qu'elle voulait boire et qu'il y avait de l'eau que sur moi. C'était marrant. Donc, je l'ai laissé boire et après, elle est partie. Du coup, on a un petit échange. Je lui donnais de l'eau. Mais du coup, j'étais contente. Il y a des gens, ils les écrasent. Hein. Elle faisait pas les choses sans raison, quoi. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait partie de la vie derrière un comportement, quoi. Pour moi, ça fait partie de la beauté. Je peux passer des heures à regarder ça, je m'ennuierai jamais. Ça me surprend, ça m'ébahit, ça me touche. Pourtant, il n'y a rien. Il y a tout et rien à la fois. Ouais. Ça dépend comment on regarde. En regardant ça, je me dis que le bonheur, c'est ça, juste. C'est faire comme eux. Les choses simples du quotidien, faire son nid, trouver à manger, un petit chez soi bien, et que toute cette petite vie que je regarde n'est pas stressée, elle n'a pas besoin d'antidépresseurs, elle fait pas de burn-out, et elle fait juste ça, quoi. Elle n'a pas plus d'ambition. Ça, c'est une laitue. Là, elle va avoir un fort goût, mais c'est un peu amer. Il faut la mélanger à d'autres. Après, c'est ça, nous, on est en mangeant des plantes sauvages, on est habitué aux choses qui ont du goût. La laitue cultivée, l'endive, à côté, c'est fade.
On a quand même une belle petite salade. C'est plus agréable à faire ça qu'aller faire les courses.
Les tout premiers orties de l'année, minuscules. On voit qu'ils ont encore froid.
Sans gants, c'est sûr que ça pique un peu, mais ça stimule un peu le sang.
C'est du bien.
Là, ça va être nos premières orties fraîches
de l'année.
Donc là, qu'est-ce que nous avons à part l'ortie ?
Dans la mauve, mais elle n'est pas très belle. Pas si
C'était Les Cueilleurs, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Claude et Lucille, ainsi qu'à Samy Korkos et à Delphine Saltel qui m'a signalé la théorie de la fiction panier. C'est Céline Paris, la tapro des pieds sur terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.